Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, c'est Lucie Mercier, directrice commerce et marketing numérique chez l'entreprise Deserre, qui est avec nous. On discute ensemble de Google Shopping, structure d'équipe interne et bien entendu de Q4. Bonne écoute! Bonjour à tous, auditeurs du podcast Commerce Élite. J'espère que vous êtes en forme et attentifs car aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, la persuasion dans les stratégies emailing. Il faut savoir que de base, un courriel efficace tient dans l'intrigue, le visuel et les mots. En effet, vous devez être assez intriguant pour que vos lecteurs cliquent, que votre contenu soit assez beau pour inciter ces derniers à s'arrêter et bien rédigé pour convertir leur attention. Ce triptyque peut paraître compliqué à première vue, mais dans les faits, il repose sur un socle commun. La persuasion. Persuader est d'amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose et pour être convaincu, votre auditoire doit être compris. Prenez un exemple. Un tailleur ne vend pas juste un veston à son client. Il lui offre un moyen de se distinguer lors d'un événement. Il lui permet d'atteindre un certain niveau d'élégance et de booster son estime de soi. Avec cet habit, son client est transformé pour une soirée, voire pour ses futures semaines de travail. En vous focalisant sur ses bénéfices, sur ce qu'obtiendront vos clients contre cette transaction, vous vous concentrez réellement sur leurs besoins. Comme ce tailleur, vous n'êtes pas le héros de l'histoire, mais le guide qui mène un client de son point A à son point B en empruntant le chemin le plus simple. Pour en revenir à la persuasion, chez Pure Commerce, nous bâtissons nos stratégies emailing autour de 4 piliers de contenu dédiés à la persuasion. Ces piliers sont présenter les bénéfices, comprendre les besoins fondamentaux et l'émotionnel du client, jouer sur l'authenticité et utiliser une visualisation et un champ lexical puissant. Prenons ces piliers un à un. Présenter les bénéfices. Le lecteur doit comprendre rapidement ce qu'il gagne à acheter votre produit ou service. On ne parle pas ici de caractéristiques techniques, mais ce que cela apporte dans sa vie quotidienne. C'est un argument qui doit être clair, précis et qui répond à un besoin ou une envie spécifique du client. Comprendre les besoins fondamentaux et l'émotionnel du client. Chaque personne a des besoins et des envies qui lui sont propres. Et souvent, ces besoins sont liés à des émotions. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qui motive le client et d'y répondre de manière émotionnel. Cela crée un lien de confiance et d'identification à la marque. Jouer sur l'authenticité. Dans un monde où le consommateur est constamment sollicité, l'authenticité est devenue une denrée rare et précieuse. Et étant transparent et sincère dans votre communication, vous vous démarquez de la concurrence et créez une relation de confiance avec le client. Parlez de vous, de votre histoire et de vos équipes. Utilisez une visualisation et un champ lexical puissant. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent évoquer des images, des émotions et des sensations. En choisissant les bons mots et en les associant à des images fortes, vous créez une expérience sensorielle qui marquera l'esprit du client et l'incitera à passer à l'action. Et devinez quoi? En suivant ces principes, vous ne ferez pas que vendre un produit. Vous vendrez une expérience, une transformation. Alors, la prochaine fois que vous rédigerez un email, rappelez-vous de ces principes et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre auditoire. À la prochaine, les amis! Imaginez avoir à mettre de l'avant plus de 25 000 produits pour votre boutique en ligne. Un peu complexe, non? Aujourd'hui, sur Commerce Élite, Lucie Mercier nous explique comment son équipe à l'interne chez Deserre travaille afin de mettre en marché autant de produits dans plusieurs différentes catégories. Elle nous explique également les changements qu'elle a observés durant sa carrière en e-commerce. Bonne écoute! Donc, on est de retour au podcast Commerce Élite en mode discussion et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Lucie Mercier, directrice commerce et marketing numérique de l'entreprise Deserre. Deserre est une organisation spécialisée dans le matériel d'artistes et de loisirs et créatifs et compte 30 magasins partout à travers le Canada ainsi qu'une présence en ligne très forte qui grandit d'une année à l'autre. Lucie Mercier, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite aujourd'hui.
Merci de l'invitation.
Et Lucie, on va regarder un petit peu ton parcours parce que avant de travailler chez Deserre, je pense que tu es arrivée en août dernier, donc on enregistre le podcast le 7 novembre 2023, donc ça fait quelques mois maintenant. eh bien, tu as eu des belles expériences, des expériences chez Reitmans, Yves Rocher, la Maison du Whisky, des organisations très grandes. À travers tes dizaines d'années d'expérience, selon toi, c'est qu'est-ce qui a plus évolué dans le domaine du commerce en ligne?
Je dirais que les sources de trafic ont vraiment beaucoup évolué, notamment quand le programmatique est arrivé, puisqu'on a travaillé sur le ciblage différemment, les audiences sont beaucoup plus affinées. Donc, je trouve que le programmatique a vraiment changé et ça a changé la relation avec les agences. C'était un nouveau métier, en fait. Avant, on achetait le média pour aller faire du trafic, souvent par les régies, dans les sites un peu spécialisés, etc. Et aujourd'hui... Je pense que le programmatique a vraiment fait évoluer les choses, puis ça fait évoluer nos équipes en interne, parce que maintenant, on parle vraiment consommateur et audience. Donc, je trouve aussi que l'aspect, c'est lié à l'aspect CRM. C'est quand même très important dans l'e-commerce. C'est souvent séparé, mais je pense que ça reste, selon moi, c'est très, très lié, le média, le CRM et l'e-commerce, parce qu'on parle du consommateur, donc d'une audience et d'un profil. Qu'est-ce qui aurait plus évolué? Je te dirais aussi que l'expérience en ligne. L'expérience en ligne... Bah, on s'entend qu'on veut tous avoir une belle expérience en ligne. Là, j'enfonce une porte ouverte. Mais ça a évolué dans le sens où on peut analyser les parcours consommateurs. On a beaucoup plus de data sur ce qui se passe sur nos sites. Donc, on a quand même beaucoup plus de matière pour pouvoir déployer les stratégies d'entreprise et vraiment intégrer l'e-com aussi dans la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, on est quand même équipé, je pense, par rapport à il y a une dizaine d'années, 10, 15 ans. Le tout data, c'est pas forcément ça qui va nous faire devenir meilleur, mais en revanche, ça permet, je trouve, de mieux intégrer les équipes aussi en interne et puis d'avoir une plus belle connaissance de ce qui se passe avec nos consos. Donc, je te dirais que c'est vraiment très orienté conso. Ouais.
Et je suis curieux, si on vient peut-être 5-10 ans en arrière dans tes anciennes expériences que tu avais avec d'autres organisations, le trafic, vous l'achetez où? Est-ce que c'était uniquement sur Google? Est-ce que vous aviez travaillé beaucoup sur vos présences organiques? Ou même peut-être qu'à un certain moment, c'était la nouveauté Google et on travaillait beaucoup plus sur du traditionnel.
Alors, on travaillait plus sur le traditionnel et le magazine. Moi, de mon expérience, c'était plus en beauté. Donc, effectivement, il y avait aussi beaucoup de publicité traditionnelle dans les magazines. Souviens-toi, on écrivait l'URL sur les sacs dans les magasins. Donc, le direct load aussi, tu sais, faire connaître l'URL du site, c'était quelque chose. C'était dans les stratégies, il y a comment je fais connaître l'URL du site. Donc, c'est plus tout à fait la même affaire. C'est sûr que,
on peut voir que ça a évolué.
Vraiment évolué. Ouais.
Intéressant, fascinant même. Et peut-être, je reviendrai à De Serre. Donc, tu es arrivé dans l'organisation il y a quelques mois maintenant, comme on l'a dit en introduction. Tu as travaillé dans d'autres organisations dans le passé, dans un rôle similaire. Moi, je serais curieux. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans le domaine du commerce en ligne. Il y a beaucoup de directeurs marketing également qui nous écoutent. Le modus operandi de Lucie Mercier, quand tu arrives dans une organisation et que tu as un rôle comme le tien, à quoi ça ressemble? Quelles sont les premières choses que tu mets en place dans une entreprise?
Alors, la première chose que je fais, c'est que j'aime bien comprendre ce que font les équipes et j'aime bien les écouter raconter ce qu'ils font, en fait. Surtout, ce qui est pour moi vraiment important, ça fait quand même qu'effectivement, comme tu l'as dit quelques années, c'est vraiment comment est-ce que les équipes travaillent ensemble. L'e-commerce, comme tous les départements, hein, c'est beaucoup plus efficace quand il y a une belle synergie, une compréhension des métiers des autres. À une époque, on faisait un peu des vie-ma-vie, là. Je trouvais quand même ça intéressant et je pense que pour l'e-commerce, ça reste encore quelque chose qui est important à mettre en place. Donc, j'aime bien comprendre ce que font les équipes, l'équipe e-commerce, mais aussi les autres en relation avec les ventes en ligne, puis en relation avec le produit. Parce qu'en fait, le e-commerce, c'est beaucoup, beaucoup de métiers. En fait, il y a du marketing, du CRM, la gestion des produits, il y a du média, il y a de l'acquisition, de l'analyse, de la technologie, bien sûr. C'est pas juste un département qui utilise un outil pour créer le site, en fait. Donc, c'est ça que j'aime bien regarder, en fait. Quelle est la maturité au niveau des équipes, au niveau de la compréhension des métiers et du travailler ensemble, plus que d'aller tout de suite déployer une stratégie d'acquisition. Bien évidemment, je vais regarder les chiffres. Bien évidemment, je vais regarder de la data sur se faire une tête sur tout ça. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment comment travaillent les gens. Parce que c'est à travers ça qu'on pourra faire évoluer des choses et implémenter des nouvelles choses. J'aime pas trop forcer les choses, en fait. Faut que ça aille aussi dans le mouvement de l'entreprise.
Et l'objectif, qu'est-ce que tu essaies peut-être d'en sortir de tout ça? Un diagnostic peut-être plus concret qui par la suite te donne la chance de bâtir un plan d'action?
Oui, la première chose, c'est aussi de voir si les attentes et les objectifs fonctionnent avec ce qui existe vraiment dans l'entreprise, en fait. Parce qu'on se dit souvent que le e-com, ça doit être, c'est souvent, ceci dit, le premier flagship, c'est la première boutique. Quand il y a des boutiques aussi en retail comme nous, on a des boutiques physiques. Souvent, on se dit que ça doit être la première, etc. Puis il faut que ça progresse de X% tous les ans, etc. C'est ça. On a souvent cet objectif-là. Puis on oublie souvent de prendre en compte l'objectif humain, les équipes. Donc, le diagnostic pour moi, il est de savoir quelle est la maturité puis quelle est l'organisation interne pour éviter le travail, notamment en silo. Et puis mettre les équipes un peu chacune dans son coin. Donc moi, mon diagnostic, il est pas mal humain et procédure de travail, parce qu'une fois de plus, souvent, on a des agences et des partenaires qui sont capables de nous sortir des rapports sur combien on a de trafic, on a plein d'outils qui nous permettent de faire ça. Ça reste assez froid. Moi, j'aime bien avoir ce diagnostic de est-ce que tout le monde est aligné sur c'est quoi les attentes, mais est-ce qu'on est OK pour y aller? Est-ce qu'on est en place pour y aller?
Intéressant. Et bon, on rentre dans le volet peut-être un petit peu plus tactique, stratégique. C'est assez impressionnant. Il y a 30 000 produits que vous mettez de l'avant chez Desserts. 30 000 produits, c'est tout à fait énorme. Donc bon, on doit avoir une stratégie marketing spécifique. J'ai cru comprendre que de votre côté, la majeure partie du trafic, la commercialisation va se faire à partir de Google Shopping. Peut-être que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail comment vous vous y prenez pour être le plus efficace possible dans votre mise en marché.
Je te cache pas que c'est un sujet qui nous anime pas mal tous les jours. Le produit, c'est un élément essentiel chez nous. Et ce qui est surtout essentiel, donc c'est aussi un sujet sur lequel on travaille vraiment très fréquemment dessus, c'est les informations liées au produit. Parce que c'est ce qui va nourrir le site web, c'est ce qui va nourrir les communications, dont Google Shopping, comme tu dont tu en parlais, qui est effectivement un de nos canaux de trafic et de vente, en termes de revenus plutôt, qui est assez important. Donc, pour en arriver à la mise au marché, d'abord, on a besoin de centraliser toutes les informations produits et on a mis en place une politique de gestion qu'on appelle la gestion des flags. En fait, c'est pour classer et segmenter les produits. Donc, on a un PIM et on a besoin d'un PIM avec 30 000 produits. Donc, aujourd'hui, tout n'est pas automatisé, mais il y a beaucoup de choses qui le sont déjà. Donc, on a toute cette centralisation d'informations produits. On a mis en place des procédures, identifier le statut du produit. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié au cycle du produit, une fois de plus, qu'on va ensuite adapter à nos messages et à nos activités marketing, communication. Si c'est un nouveau produit, je vais le flaguer comme un nouveau produit, puis je vais essayer de le diffuser à des gens qui sont plus à même de chercher de la nouveauté, des artistes qui aiment découvrir des produits, etc. Plus que quelqu'un qui a l'habitude de toujours acheter son même produit. S'il a envie d'une nouveauté, il peut aller le chercher, mais moi, je vais peut-être pas forcément lui pousser s'il montre pas en fait un intérêt. Donc toutes ces informations produits sont la donnée produit est extrêmement primordiale de pouvoir l'organiser en fait. Et ça influence vraiment la visibilité produit. Donc là aussi, on a une vraie collaboration avec notamment les équipes des achats qui nourrissent aussi l'information produit pour comprendre pourquoi on va l'utiliser. Donc c'est toujours super intéressant aussi de confronter des métiers qui sont vraiment différents. Puis comme en plus, nous, on a une expertise qui est quand même très poussée sur nos produits. Comme tu dis, on a un large inventaire et un large choix, mais on souhaite surtout proposer le bon produit aux artistes et aux consommateurs qui viennent chez nous. Donc, tu parlais de shopping, c'est effectivement un des canaux qu'on utilise beaucoup pour la mise en marché. Pour la mise en marché en tant que telle, effectivement, on est accompagné par des experts qui nous aident dans la gestion de ces flux. Donc, je veux pas rentrer dans le technique, là, mais tu sais, tout le monde, je pense, est au courant que Google a besoin de flux produits, Meta aussi. Donc, c'est pas que chez Google. Donc, Google Shopping, ça reste quand même le plus gros aujourd'hui. Donc, pour effectivement notre présence, on a besoin d'avoir des partenaires qui nous aident à organiser ces produits et ensuite à analyser aussi le marché pour nous de façon régulière. Pour pouvoir proposer les bons produits au bon moment, selon la requête. On n'a pas envie d'inonder le marché avec nos produits. On est quand même assez experts et on a des beaux produits, tu sais, avec une belle valeur, puis une belle expertise, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut matcher avec le consommateur par rapport à son parcours d'achat. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en interne. Par contre, nous, on donne la direction, bien évidemment, puis on affine la stratégie ensemble. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, il y a beaucoup d'étapes en fait, donc c'est ça, l'information sur le produit, bien comprendre comment fonctionnent aussi les plateformes comme Google Shopping, bien classifier, segmenter nos produits, Tu sais, nous, par exemple, on a une activité, l'activité Beaux-Arts, qui est extrêmement importante pour nous, et le matériel d'art, les toiles, la peinture, les pinceaux, etc., les médiums, tout ce qu'on veut, là, c'est assez linéaire toute l'année. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le temps de travailler les besoins de nos consommateurs, comment est-ce qu'ils expriment ce qu'ils cherchent, etc. Donc, c'est un vrai croisement entre la vision de l'entreprise et aller mettre les produits sur Google Shopping. Ça paraît être un grand écart, mais on essaye de garder ce fil et que toutes les équipes aillent dans le même sens et qu'on parle tous la même langue, en fait. Donc, honnêtement, c'est une organisation qu'il faut mettre en place entre le web, les achats, le marketing, intégrer le partenaire, garder la bonne direction. C'est un cycle de travail à travers du cycle du produit. C'est un sujet permanent, en fait. C'est vraiment un sujet permanent pour pouvoir éviter d'inonder le marché avec des produits qui ne sont pas désirés, en fait.
Intéressant. Et dis-moi, au-delà de shopping, à quoi ressemble votre mix marketing global? Est-ce que vous êtes simplement dans du numérique en 2023 ou il y a beaucoup encore d'investissements qui vont se faire dans du traditionnel?
Aujourd'hui, on investit principalement dans le digital parce que c'est ça, comme ce qu'on vient de dire, c'est qu'on essaye vraiment d'avoir le bon produit selon la recherche. Et puis, c'est effectivement le meilleur aspect, c'est sur le digital. On a quand même quelques tactiques et quelques actions en support de certains magasins, donc plus local, en étant plus dans de la publicité traditionnelle, mais on va être plus aussi sur venir vivre une expérience ou regarder des nouveaux produits, etc. Donc, on essaye toujours de créer quelque chose expérientiel. Mais sinon, le traditionnel, en général, on le fait pas tout seul. On va le faire en collaboration avec une de nos marques, puisqu'on vend beaucoup de marques, ou on va le faire en collaboration avec un événement, par exemple. Mais c'est, pour répondre à la question, on est quand même principalement digital. 90% du budget, 80% du budget va être sur du digital.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Tu as parlé, Lucie, en début d'entretien équipe, structure, écouter tes collègues, comprendre un petit peu ce qui se déroule avec eux. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment tu ajustes peut-être un petit peu ta structure interne depuis que tu es arrivé, comment tu l'améliores, ou peut-être même comment tu le reconstruis. Est-ce que vous faites davantage vos contenus en interne? Est-ce que c'est fait à l'externe? Quel type de poste, quel type de rôle tu préfères internaliser? Qu'est-ce que tu préfères externaliser? Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur l'équipe marketing que vous construisez chez Dessert.
Entre l'interne et l'externe, c'est quand même un mélange des deux. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de partenaires. Moi, mon ambition, c'est aussi de pouvoir faciliter la vie de mon équipe, très honnêtement, en premier, et puis de bien collaborer avec des partenaires. Quand on a plusieurs partenaires et que c'est disséminé, c'est pas toujours la solution la plus idéale, mais je suis quand même convaincue qu'il y a un vrai équilibre à avoir entre l'interne et l'externe. Donc, notamment pour être au fait de tout ce qui va se passer sur les plateformes, comme Google Analytics, par exemple, le sujet du moment quand même pour pas mal de retailers, je pense. Donc, c'est quand même intéressant d'être branché avec ce qui se passe à l'extérieur, puis sur ces plateformes. Aujourd'hui, j'ai pas la capacité d'avoir des gens en interne que je peux envoyer en formation tous les mois ou tous les deux mois, etc. Les agences ont aussi une belle relation avec Google ou Meta ou d'autres plateformes qui les nourrissent. Donc moi, j'aime bien travailler avec des partenaires que je considère être une extension de l'équipe. Parce que notre équipe interne, donc on gère le web at large, et nous, l'objectif, c'est vraiment, on doit connaître notre business, connaître toutes les subtilités, de façon à guider les partenaires, anticiper les besoins, éventuellement des risques. On connaît quand même notre concurrence, etc. Donc, je te dirais que l'interne, en interne, c'est là-dessus où moi, je veux qu'on se ramasse beaucoup plus. C'est c'est quoi notre direction, où est-ce qu'on va, etc. En termes de contenu, il y a beaucoup de choses qui se font en interne parce qu'on a beaucoup d'acheteurs qui sont extrêmement professionnels dans leur catégorie. Et dans nos magasins, la plupart des conseillers sont aussi des artistes. Donc, on a la capacité, je dirais, en interne de pouvoir créer beaucoup de contenu. Donc, ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ça ne nous empêche pas de travailler aussi à l'externe, notamment pour aller travailler plus sur des infolettres ou des choses comme ça. Mais pour résumer, je te dirais que tout ce qui est de l'ordre de la stratégie, l'orchestration, tout ce qui est la marque, le positionnement, la vision, c'est en interne de façon à pouvoir nourrir les partenaires avec lesquels on travaille. Moi, je pars du principe que c'est l'interne qui doit mener le bateau et les partenaires, on travaille ensemble pour pouvoir avancer. Donc, avancer et amplifier selon la vision de l'entreprise. Effectivement, nous aujourd'hui, on a envie d'inspirer le plus de monde possible à se mettre à l'art créatif.
OK, très intéressant. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est 7 novembre 2023. Chez Desserts, je suis allé visiter un peu le site web, je regarde un peu, il y a déjà des initiatives qui sont mises en place pour les dates importantes de novembre, le temps des fêtes arrive bientôt, il arrive au mois d'août, il y a déjà beaucoup de temps qui avait passé avant que finalement le Q4 arrive, et habituellement c'est une période qu'on planifie longtemps en avance. Comment tu t'intègres à cette période dont importante pour les retailers, pour les commerçants, et comment voyez-vous le toucher de ça?
Moi, quand je suis arrivée, effectivement, il y avait déjà quand même beaucoup de choses qui étaient préparées. Hein. Comme tu le dis, ça se prépare à l'avance. Ce que moi, j'ai essayé de faire, c'est plus de se remettre dans les chaussures des consommateurs, des consommatrices au maximum. Parce que nous, notre ambition, c'est de proposer des belles opportunités produits avec des bons prix. Parce que oui, c'est aussi la période sur laquelle on va chercher du prix. Le marché fonctionne comme ça. Donc, en fait, on a plus travaillé notre flow tout au long des semaines jusqu'à fin décembre. Donc, on a repensé nos contenus. On avait déjà des belles offres qui étaient prévues. Donc, on a vraiment travaillé autour de ça tout en se mettant une fois de plus dans les chaussures du consommateur. Qu'est-ce qu'il cherche à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a envie de trouver? Quels sont les produits qu'on pense être les meilleurs aussi avec une meilleure attractivité prix? Donc, il y a vraiment les deux. Il y a cet aspect, on a trouvé des bons prix sur des produits qui font sens aujourd'hui. Et moi, je voulais pas qu'on ait un Black Friday, et c'était pas ça qui était prévu, mais qui écoule ce qu'on n'arrive pas à vendre. Parce que c'est un moment qui reste un moment de prime et qui reste, selon moi, assez privilégié, puisqu'il y a quand même beaucoup de trafic. Donc, écoutons quand même les consommateurs ce qu'ils cherchent. Donc, on a travaillé ces deux angles-là. Donc, l'aspect promotionnel et prix était déjà pas mal en place. Ce qu'on a plus travaillé, c'était plus l'angle de le flow, en fait. Puisque c'est le même consommateur au final qui va recevoir des infolettres et des communications toutes les semaines. Donc, essayons de travailler un flow qui soit pas trop répétitif. Donc, c'est ça, c'est les deux angles. Et du contenu et de proposer les bons produits pour articuler jusqu'à fin décembre, puisque ça s'arrête pas fin novembre malgré tout cette période des fêtes.
Donc, un calendrier pour le Black Friday, pour certaines initiatives de novembre, calendrier pour décembre. Est-ce que vous commencez longtemps d'avance? Est-ce que vous utilisez simplement peut-être la semaine du Black Friday? Comment voyez-vous ça de votre côté un peu? Parce que on parle avec beaucoup d'entreprises, on travaille également avec beaucoup d'organisations de notre côté. On dirait que cette année, la mode a été le Black November.
Alors, je suis d'accord qu'on voit beaucoup de Black November depuis quelques temps. Nous, en fait, on a depuis quelques années un événement VIP pour tous les gens qui sont abonnés à notre club fidélité, qui s'appelle le Club Créatif. Donc, effectivement, traditionnellement, début novembre, ils ont quelques jours sur lesquels ils ont effectivement un accès à des prix préférentiels. C'est un gros moment pour nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Et aujourd'hui, on a travaillé... On fait pas un Black Month parce que historiquement, Desserts n'est pas une entreprise qui est très, très promotionnelle. On revend aussi beaucoup de produits. On a notre propre marque, mais on revend beaucoup de produits. Donc, c'est toujours difficile quand on est un retailer d'aller chercher du gros prix. Là. Donc, mais on a effectivement nos catégories phares et qu'on estime être les bonnes catégories à ce moment-là de l'année, comme les jeux pour les enfants ou les jouets, les puzzles, etc. C'est des bons moments pour aussi pouvoir le travailler. Donc, on a quelques offres avant le Black Friday. Et comme je te dis, on n'a pas beaucoup de promos le reste du temps, en fait, de cet ordre-là. Donc, nous, c'est un peu notre mois d'animation commerciale. Donc, on l'a travaillé quasiment toutes les semaines jusqu'à Black Friday. Donc, est-ce que c'est un Black Month? Je vais dire non parce que j'ai pas envie d'être trop promotionnel, mais on a quand même des offres à peu près tout le mois de novembre. Donc, un peu.
Intéressant. Et bon, Lucie, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine, tu as vu beaucoup de choses. Comment vois-tu l'évolution du marketing numérique de manière globale, mais également peut-être de dessert dans les prochaines années, les 12, 24, 36 prochains mois? Comment vois-tu le tout évoluer?
Je te cache pas que nous, on travaille vraiment, donc je disais sur la partie produit, mais aussi sur tout ce qui est CRM. C'est vraiment l'aspect marketing CRM sur lequel on va vraiment vouloir... On a des belles collaborations, puis on est en train de travailler dessus. L'objectif est de bien comprendre les consommateurs. On se positionne comme vraiment les experts. Donc, on se doit d'avoir une relation extrêmement privilégiée avec les consommateurs. Donc, c'est vraiment tout ce qui est la stratégie CRM, faire évoluer notre programme de fidélité également sur les 12-24 mois. Là, c'est pas mal ça sur lesquels on va vraiment se concentrer, en plus de optimiser notre connaissance client et notre connaissance sur les consommateurs. Et comment est-ce que le marché réagit? On a de la concurrence qui arrive, etc. Donc, ça va être beaucoup sur du positionnement aux bons endroits. On a la chance que Dessert, c'est une entreprise qui est quand même très connue au Québec. On a une belle notoriété.
Très forte notoriété.
Exactement. Donc, on a cette chance-là de pouvoir aussi bien travailler la relation avec nos consommateurs et de travailler notre programme de fidélité. C'est super fun, hein, c'est-à-dire on est sur l'art créatif. Donc, c'est un bon sujet.
Ça aide pour le marketing numérique, pour le marketing direct, ouais, d'avoir un brand aussi fort, là.
Absolument. Absolument, parce que vraiment, on va vraiment travailler sur, aller deep diver sur les personas, etc. On est une entreprise de moyenne taille, je dirais. Donc, j'ai pas 50 personnes qui sont capables d'aller me cruncher de la data tous les jours. Et puis, quelque part, c'est pas ça qu'on cherche. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu de temps pour aller plus en profondeur, et donc c'est encore plus motivant et encourageant, en fait, je dirais, sur les aspects marketing. C'est quoi les histoires qu'on veut raconter, travailler le contenu, on en parlait, on a nos photographes, on a un studio en interne, donc on travaille vraiment sur tous nos produits et sur la marque beaucoup.
Fantastique. Lucie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur Dessert, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Le site web, dessert.ca.
Et on va voir les différentes promotions.
Allez visiter nos magasins. Il y en a, on a à peu près 30 magasins et quelques-uns à Montréal, en tout cas. Donc, peu importe le point de contact, vous serez bien accueillis.
On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Lucie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très intéressant de voir comment tu t'es intégré à l'organisation en si peu de temps. Beaucoup de choses importantes qui arrivent dans les prochaines semaines pour Dessert. On regardera ça de près. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Célébrité.